France Inter.
Ce soir, portrait d'Isabelle Huppert pour une triple actualité. D'une part, le film Frankie d'Irasax va être présenté dans quelques jours en compétition officielle au Festival de Cannes. Un autre film intitulé Greta de Neil Jordan sortira le 12 juin. Et puis surtout, d'ailleurs nous l'avons rencontré dans sa loge de théâtre juste avant une répétition hier avec Bob Wilson, car Isabelle Huppert va interpréter le rôle de Marie Tudor à propos du nouveau spectacle de Bob Wilson intitulé « Marie said what she said ». Mais tout de suite, comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec « I Will Survive » de Gloria Gaynor.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Alors, on a commencé cette émission par une chanson que vous aimez beaucoup et sur laquelle vous aimez beaucoup danser, Isabelle, c'est « I Will Survive ». Pourquoi vous aimez autant danser? Que se passe-t-il en vous quand vous dansez?
Il y a mille manières de danser. Il y a danser sur « I Will Survive ». Le titre est bienvenu en ce moment. « I Will Survive ». J'espère que « I Will Survive » pendant ces répétitions du spectacle de Bob Wilson. La danse me fait tout de suite penser... au spectacle de Bob Wilson, justement. Il sollicite le corps, enfin le corps il est toujours sollicité, même s'il est immobile, mais il sollicite le corps en mouvement tout le temps, Bob Wilson. Il fait trouver le danseur ou la danseuse en soi, comme si chacun, au fond, avait, ou chacune avait la danseuse en soi. Alors il va chercher ça, pour qu'il y ait un mouvement qui ne s'interrompe jamais.
Et comment ça a commencé avec Bob Wilson ?
Avec Bob Wilson, ça a commencé complètement par hasard. Je l'ai rencontré au cours d'un dîner auquel j'avais absolument pas prévu d'assister. C'était un dîner que s'est d'ailleurs organisé de manière impromptue. Voilà, je l'ai rencontré par hasard. J'avais croisé sa route il y a très longtemps au festival de Shiraz en Iran, où j'étais dans un spectacle mis en scène à l'époque par Daniel Benoin avec Brigitte Catillon, François Berléand. C'était il y a très longtemps et on jouait dans une production off-off. Shiraz, c'était un festival très chic à l'époque qui réunissait les plus grands talents d'Europe. Il y avait Stockhausen à Persepolis. Parfois, je crois que Ardan Mouchkine est passé par là. Peut-être pas, ça, peut-être je fais une erreur. En tout cas, cette année-là, il y avait Bob Wilson qui présentait un spectacle qui s'appelait K Mountain, qui durait 7 jours et 7 nuits. Voilà, c'est la première fois que j'ai croisé la route de Bob Wilson. Et puis après, je l'ai recroisé au cours de cette soirée. Et c'est là. Tout d'un coup, on a parlé de Orlando, qui venait de terminer de monter et de jouer avec Utah Lamper à l'époque. Et puis tout d'un coup, il m'a demandé si j'avais envie de le faire à Paris. Bon, et c'est parti comme ça. Je crois qu'il m'avait jamais vu au théâtre. Je ne sais pas du tout ce qu'il connaissait de moi. On ne sait pas si il voit des films. On ne sait pas s'il voit d'autres spectacles. On ne sait pas. Voilà, où commence son rêve, ou de quel endroit ça part chez Bob Wilson. Ça part d'un endroit mystérieux. Donc je ne sais pas du tout ce qui a provoqué tout d'un coup cette impulsion, cette envie de monter Orlando avec moi à Paris.
Voilà. Il a trouvé la danseuse en vous, peut-être ?
Peut-être, oui, il l'a pressentie, je ne sais pas. Il procède par intuition, c'est un être intuitif. Avant toute chose. Et après, nous avons fait quartet ensemble, et puis aussi une émission de radio pour la radio allemande, où là, c'était toute une série de textes qu'on enregistrait. Il y avait Angela Winkler, il y avait d'autres comédiens allemands, et puis tout d'un coup, en l'espace de quelques heures, c'est devenu un spectacle, et c'est finalement quelque chose qu'on a présenté sur une scène deux fois. Et voilà, ça, c'était un autre petit travail que j'avais fait avec lui.
Alors j'ai eu la chance hier soir d'assister à une répétition de ce spectacle qui va commencer donc à l'espace Pierre Cardin. Et j'ai constaté que Bob Wilson vous considérait comme une sorte de muse et qu'à partir des déplacements de votre corps, de vos bras, de ce costume que vous portez qui est dans la loge où nous nous trouvons juste à côté de vous, cette immobilité du corps, il la casse, il vous donne des indications corporelles mais aussi psychiques. Il regarde votre visage, il crée avec la lumière et avec vous. Comment vous considérez-vous dans ce processus de création ? Où êtes-vous, vous, Isabelle ?
Je suis là, en tous les cas. Donc je suis partout. Je suis là où j'ai envie d'être. C'est beaucoup d'être traversé par tous ces sentiments quand on fait un spectacle. Le pire, ça serait de pas sentir où on est, de se sentir exclu, c'est tout le contraire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque si vous avez assisté à la présentation, vous avez vu que tout a une apparence aussi assez mécanique dans un premier temps. Il donne des indications, oui, psychique, c'est peut-être le mot qui convient. Il n'y a pas du tout de travail sur le texte, enfin le travail en tous les cas habituel sur le texte. Il y a un travail sur le texte, mais qui passe par des détours assez surprenants. Puisque c'est surtout sur le rythme, des couleurs de voix, il travaille sur les sensations, il travaille sur tout ce dont on est au fond rempli inconsciemment quand on fait quelque chose. Donc lui, il sollicite ça, ses intuitions, ses sensations qu'on peut avoir quand on joue finalement. Et ce qui est curieux aussi, c'est que dans un univers où tout est tellement millimétré, où tout est tellement précis comme le sien, parce que la lumière, la musique, voilà, tout doit rentrer comme ça dans un espèce de schéma extrêmement précis. Et en même temps, un jour, je me souviens, il m'avait dit, le jeu, c'est par définition, c'est de l'improvisation. Donc ça prouve bien au fond qu'à l'intérieur de cette énorme contrainte, il espère, il attend, il anticipe au fond la plus grande liberté, parce que l'improvisation c'est la liberté, c'est l'ici et maintenant, c'est l'idée qu'on fait les choses sans avoir anticipé quoi que ce soit justement, sans avoir réfléchi, que plutôt sur une impulsion. Donc ce qui est assez curieux, c'est qu'il convoque à la fois ça, cette soudaineté, cette immédiateté, mais pris dans un filet extraordinairement préparé, contraignant et contraint.
Mais je croyais que vous preniez la liberté d'arriver le plus tard possible au théâtre, justement, pour vous préparer.
Pas pendant les répétitions, non. Non, dans un spectacle de Bo Wilson, c'est pas possible. Il y a trop de préparation. Là, on a trop peu de temps aussi pour tout préparer. Et là, j'arrive très très tôt au théâtre pendant les répétitions. Et pendant les spectacles, non, très tôt. Surtout pour Marie Histoire, où j'arrive pas quand même en basket et en jean et en t-shirt. Donc tout ça prend beaucoup de temps.
Du temps, alors, encore une fois, psychique, à l'intérieur de soi.
Oh, le temps de la préparation, oui, c'est forcément un temps à l'intérieur de soi. Mais pour revenir à ce dont on parlait, c'est le sentiment que j'ai avec Bo Wilson, encore une fois, c'est que, oui, on pourrait penser que tout est un peu désincarné, qu'on est loin derrière soi-même, alors qu'en fait, on est au plus près de soi-même. Là, en l'occurrence, je joue Marie Histoire. Alors, on parle très peu de Marie Histoire. Au fond, il y a un texte de Daryl Pickney, très imagé, très poétique, très lancinant, qui revient sur des épisodes très précis de la vie de Marie Histoire, mais par bribes, par images, par métaphores. Il y a les choses qu'on connaît de Marie Histoire, il y a des choses qu'on apprend sur elle, il y a des choses qu'on a su, qu'on a oubliées. C'est un texte très documenté, très riche, et qui revient aussi beaucoup sur sa relation avec ses quatre servantes. Qui s'appelait toute Marie, comme elle.
Ce n'est pas pour autant que vous êtes Marie.
Non, absolument pas.
Vous n'êtes jamais les personnages que vous interprétez.
Non, on ne peut pas du tout parler de notion de personnage avec Bo Wilson. C'est déjà une notion à laquelle je répugne un petit peu la plupart du temps, la plupart dans un spectacle plus classique, disons, avec des personnages plus classiques. Mais avec Bo Wilson... Oui, on peut pas parler de personnage, même si le spectacle s'appelle Marie Histoire, donc les gens s'attendent à voir Marie Histoire. Et ils vont la trouver, c'est ça le miracle.
Mais
en tous les cas, on n'est pas allé la chercher par les moyens les plus classiques, Bo Wilson et moi. Mais bien sûr qu'on va la trouver, sinon il n'aurait pas eu envie de monter ce texte, il ne sera pas intéressé. De la même manière qu'on a trouvé Orlando, qu'on a trouvé Quartet, qu'on a trouvé... The Old Woman, quand il a fait le spectacle avec Baryshnikov et Willem Dafoe, qu'on trouve énormément de choses dans tous les spectacles de Bo Wilson. Parler de personnages, parler de sentiments précis, non.
On cherche pas, on trouve, pour paraphraser Picasso.
On peut le dire de beaucoup d'aventures qu'on traverse au théâtre et au cinéma, qu'on cherche pas, mais qu'on trouve. Je trouve, en tous les cas.
Mais on trouve. On peut le dire. Par étonnement, à un moment donné, quand le travail a commencé à s'incorporer,
on le trouve d'abord parce qu'il y a plusieurs forces au travail, donc on ne le trouve pas tout seul non plus. Moi, dans les aventures que je traverse, qu'il se soit le cinéma ou le théâtre, moi je suis ni écrivain, ni peintre, ni c'est pas une activité solitaire, c'est quand même une activité à la fois solitaire et collective, donc il y a quelque chose, on trouve autant qu'on est trouvé, on est travaillé par le film, on est travaillé par le spectacle, on est agi autant qu'on agit quand on fait quoi que ce soit de ce genre. Ça, je le trouve de plus en plus, enfin je l'ai toujours trouvé, mais je le sens de plus en plus. Il y a quelque chose qui travaille en dehors de soi.
Donc ça ressemble un peu au processus de la psychanalyse. Il faut savoir lâcher prise pour être regardé, pour interpréter, pour incarner.
L'expression lâcher prise, c'est une expression qui m'a jamais beaucoup inspirée, parce que il y a quelque chose d'assez volontaire dans le lâcher prise, et c'est pas quelque chose qui m'inspire beaucoup. Oui, ça doit être ça, mais c'est déjà une prise de conscience peut-être trop précise par rapport à ce que j'essaye d'expliquer précédemment.
Abandon.
L'idée qu'on est... Non, parce que ça voudrait abandon ou lâcher prise, ça voudrait dire que qu'on présentait peut-être le contraire de ça, de ce que le lâcher prise ou l'abandon évoque, alors que non, c'est plus naturel que ça. C'est je sais pas, ça m'évoque plutôt l'idée de confiance, voilà, l'idée de lâcher prise ou d'abandon. Parce que dans le lâcher prise ou l'abandon, il y aurait comme une espèce de renoncement à quelque chose, et c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt quelque chose qui aurait commencé en amont, qui aurait commencé avant, et c'est plutôt un état d'esprit dans lequel on arrive et qui est, voilà, je pense plutôt à la confiance ou quelque chose comme si on se laissait guider, comme un aveugle se laisserait guider. Confiance en l'autre, plutôt qu'en soi. Un peu en soi aussi, bien sûr, mais plutôt en l'autre, oui.
J'étais impressionnée lors de la répétition hier soir de votre faculté de méditation intérieure, c'est-à-dire que vous êtes sujet et en même temps objet, et vous obéissez aux injonctions, aux propositions du metteur en scène. Et je me suis dit, ben finalement, une actrice, c'est quelqu'un qui trouve sa liberté intérieure en même temps qu'elle écoute ce qu'on lui propose. Est-ce que ça vous conviendrait comme définition ?
Oui, c'est une parmi d'autres. Il y a un état de... Souvent, on parle de disponibilité. Moi, je parlerais aussi de docilité. C'est vrai qu'il faut énormément de docilité. Ça nous emmène peut-être... Ça nous entraîne un peu plus loin même que la disponibilité. Surtout avec quelqu'un comme Bob Wilson, moi, je me sens comme un animal très docile, voilà, qui est très, très obéissant, en sachant que voilà, c'est cette docilité-là qui va, encore une fois, m'emmener vers lui autant qu'elle va me ramener à moi-même. Quand on entre dans un monde comme le sien, on ne peut qu'y adhérer à 1000%, sinon c'est une aventure qui devient impossible. Mais c'est vrai de toutes les autres aventures que je peux traverser. Mais pour être docile de cette manière-là, il faut être confiant, bien sûr.
Docilité va avec humilité ?
Pas forcément. Non, il y a peu d'humilité chez un acteur. Non, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Non. Être acteur, ça veut dire que c'est être vu, être regardé. Ça veut dire aussi proclamer quelque chose, affirmer quelque chose de soi-même. Très très fort. Je ne sais pas si ça peut se faire avec humilité. Je peux avoir de l'humilité dans d'autres circonstances, mais pas là, je ne crois pas.
Vous acceptez beaucoup d'aventures, mais pas toutes. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de propositions que les rôles que vous faites, et Dieu sait que vous êtes réputé comme une sorte d'athlète et du théâtre et du cinéma. Votre rythme est étourdissant. J'imagine qu'il y a pas mal de propositions qui affluent vers vous. Certaines, vous les acceptez, d'autres, vous ne répondez pas.
Oh oui, mais ça, c'est dans toute vie d'acteur et d'actrice. Les choses ne se présentent pas vraiment comme ça. C'est pas les choses qu'on accepte, ou c'est même pas un problème d'accepter, les choses qu'on finit par faire, plutôt. Il y a une certaine caricature, comme ça, d'une vie d'actrice qui consisterait à la fantasmer comme une entreprise qui avancerait comme ça par refus, par acceptation. Ça se passe un peu différemment, peut-être d'une manière un peu plus intuitive, un peu plus poétique aussi, j'espère. Oui, bien sûr, il y a des choses auxquelles on dit non, mais il y a aussi une sorte d'évidence à dire oui à ce à quoi on dit oui. C'est pas... On fait un chemin ensemble.
Un compagnonnage.
Oui, plutôt.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Isabelle Huppert. Qu'avez-vous choisi ?
J'ai choisi le quatrième des derniers leaders de Strauss par Elisabeth Schwarzkopf.
Thank you.
Vous écoutez beaucoup de musique ?
Pas beaucoup, très peu, pas assez. Hier, je lisais dans un journal une phrase qui m'a inspirée tout d'un coup, qui disait « Ah, pour aller bien, c'était une petite phrase comme ça, il faut écouter de la musique tout d'un coup très fort. » Alors je me suis dit que c'est ce que j'allais faire bientôt, écouter de la musique très fort. Et c'est vrai peut-être, écouter tout d'un coup se noyer dans la musique. Moi, j'en écoute très peu. Je me souviens toujours de Nathalie Sarraute qui me disait qu'elle n'écoutait jamais une musique parce qu'en fait, elle ne le supportait pas, ce que je peux très bien comprendre. C'est peut-être trop beau pour en écouter trop souvent.
Vous parlez de votre travail comme d'un art, comme un sculpteur peut s'exprimer en dégageant petit à petit les choses et aller à l'essentiel. Est-ce que vous avez l'impression que plus vous avancez, plus finalement quelque chose... de votre liberté arrive et advient. Est-ce que vous êtes libre, de plus en plus libre ?
Pas de plus en plus. Je l'ai toujours été. Oui. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir progressé dans ce domaine. J'ai l'impression d'avoir compris des choses théoriquement ou d'avoir de les raconter mieux. C'est peut-être ça qu'on acquiert au fur et à mesure. C'est la faculté de raconter quelque chose qui était peut-être irracontable, mais qui n'en était pas moins là, de toute façon, dès le début.
Qu'est-ce que vous avez gagné au bout des
Rien.
Années
Rien, j'ai perdu.
Rien non, pas... Vous avez l'impression de perdre?
Non, pas tellement. J'ai pas un sentiment comme ça d'une progression, Oui, il y a des choses qui se précisent, il y a l'accumulation de ce qu'on fait qui donne beaucoup de plaisir et de satisfaction, surtout, bien sûr, mais c'est des plaisirs de l'instant.
Mais au fond, vous avez commencé en étant une actrice non expressive, c'est-à-dire que la caméra, je parle là du cinéma, sur votre visage pouvait refléter votre intériorité et vos états d'âme. On peut parler de La Dentelière, mais de plein d'autres films. Et on a l'impression que vous êtes de plus en plus intérieur et que les cinéastes, quand ils tournent avec vous, ben voilà, je reprends l'idée de la muse, la caméra, elle regarde votre visage, pas besoin de tellement faire de choses, parce que sur votre visage se lit votre intériorité. Pourquoi et comment, selon vous ?
D'abord, j'ai pas l'impression d'en faire si peu que ça, quand même. je me retrouve pas du tout dans cette description, souvent... que je lis ou que j'entends à mon propos sur une forme d'inexpressivité. Enfin, j'exprime ce qu'il faut exprimer au moment où je l'exprime, dans certains contextes, dans certaines histoires, dans certains... Il y a des couleurs dans chaque aventure, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Je ressemble à ces couleurs-là. Je n'ai pas le sentiment d'être particulièrement inexpressive ou d'être particulièrement économe de...
C'est pas Actor Studio, c'est...
Je sais pas très bien ce que c'est que l'Actor Studio.
Figurer ce qui doit être incarné, quoi. Vous, c'est autre chose.
C'est juste être le plus juste possible, être le plus vrai possible, être le plus vrai, être le plus crédible possible. Dans l'idée de jouer, tout de suite, il y a une espèce de petit pas de côté, de petit pas en plus qui vous éloigne tout de suite de la vérité. Bon, la réalité, le réalisme, encore autre chose, parce que que ce soit au théâtre, évidemment, le réalisme, il prend des formes tout à fait particulières, et au cinéma aussi, le montage, enfin, toute une série de choses qui vient, donner une appréciation particulière au mot réalisme. Par contre, on peut parler, oui, de justesse ou de vérité, tout simplement, d'être vrai. Alors, parfois, quand on joue, on fait déjà un petit pas en plus, un petit pas en trop, parce que ce qui est en plus, eh bien, c'est peut-être forcément en trop, qui vous éloigne tout simplement de la vérité, de la justesse. Donc, c'est juste, guetter ce moment, être en quête de cette précision-là, c'est tout.
Mais pour trouver la vérité, ou pour s'en approcher le plus possible, il faut être... Et pour être, il faut être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être docile, disponible, juste. Mais pour pouvoir être tout cela, il faut être soi-même en coïncidence avec soi, non ? Il faut aller bien tout le temps.
Ah, pas forcément non plus, non. D'abord, c'est impossible, on ne peut pas aller bien tout le temps. C'est pas forcément souhaitable d'aller bien tout le temps. Sinon, ça serait peut-être monotone. J'ai pas l'impression, non, qu'il faut forcément être bien, mais c'est le fait de le faire qui vous rend bien, ça c'est sûr, puisque c'est la notion de plaisir qui intervient. Et puis c'est un moment de... quand on parlait d'abandon, alors l'abandon, il serait plutôt dans cette idée-là, qu'il y a une forme d'oubli, en fait, d'oubli de soi, quand on joue. C'est ça qu'on recherche et qui est très agréable, l'idée du plaisir, tout simplement.
Donc quand le film ou la pièce de théâtre est terminée avec ses représentations, on se retrouve soi.
Oui, mais il y a mille autres manières de prendre plaisir à la vie quand même. Même si c'est un des plaisirs les plus forts, il y a le plaisir du regard quand même. Autant que le plaisir d'être regardé, parce que c'est ça le plaisir, c'est d'être à la fois regardé, puis en même temps le plaisir d'approcher cette justesse, cette vérité. C'est assez amusant aussi à faire. C'est un peu comme un pianiste qui fait des gammes. C'est un petit exercice un peu excitant aussi à approcher cette précision-là. Mais après, une fois que ça s'est terminé, il y a le plaisir du regard, tout simplement, le plaisir de regarder autour de soi. C'est un grand plaisir aussi.
Alors, dernière question, Isabelle, c'est votre interprétation magistrale dans ce film qui est présenté en compétition officielle à Cannes. Et j'ai l'impression que dans votre longue histoire cinématographique, c'est la première fois que vous interprétez le rôle d'une femme qui est atteinte d'un mal incurable et qui sait qu'elle va mourir. Et là aussi, je vais retomber dans les clichés qui vous agacent, mais là aussi, la caméra d'Ira Sachs qui vous filme, vous êtes d'une sérénité absolue. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce tournage ?
D'abord, c'est pas la première fois, parce que j'ai joué la dame aux camélias, quand même, qui savait
bien qu'elle allait mourir. Ah oui, mais vous étiez très jeune.
Ah oui, mais il n'empêche, quand même. Donc, il y a plein de moments dans une vie d'actrice où on joue des personnages qui se savent, à plus ou moins long terme, aller vers la fin de sa vie. Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec Ira Sachs, qui est un directeur d'acteur, je sais si c'est un mot que j'aime pas trop, mais alors là, pour le coup, parce qu'il était à la recherche de quelque chose qui m'a tout de suite fait comprendre, et ça m'a beaucoup plu de le suivre dans le chemin qu'il m'indiquait. Ça fait plusieurs films, au fond, parce que le film s'y prêtait, parce que les dialogues s'y prêtaient, parce que les situations s'y prêtaient, parce que les personnages s'y prêtaient. C'est pas du tout quelque chose qui arrivait comme ça, d'une manière ni superficielle, ni en trop. C'était au cœur même des histoires. Il n'empêche que il y avait beaucoup de second degré, souvent dans beaucoup de choses que j'ai fait récemment, beaucoup d'ironie, beaucoup de même sur un personnage comme l'avenir, par exemple, le film que j'ai fait avec Mia Hansen-Løve, il y avait beaucoup beaucoup de moments comme ça avec cette espèce d'humour. Et alors là, immédiatement, il m'a fait comprendre que il fallait absolument pas qu'il y ait ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et au début, ça m'a un peu surprise parce qu'en fait, et après, j'ai très bien compris. C'est-à-dire que au fond, là, peut-être l'émotion ou la qui est pas du tout non plus provoquée, parce qu'il y a pas, le film est très peu mélodramatique, elle est malade mais tout le monde le sait, le film ne parle que de ça, et en même temps on n'en parle pas, en fait voilà, le film est très contradictoire et très intéressant de ce point de vue là mais il fallait absolument que qu'il y ait pas de second degré, qu'il y ait pas d'ironie, qu'il y ait pas, parce que peut-être à ce moment là de cette vie il y a plus place pour l'ironie, pour une forme comme ça de d'insolence. Et il y a aussi des moments très drôles, mais ils passent, ces moments, enfin très drôles, n'exagérons rien, des moments où cette ironie passe sans que j'ai eu besoin de l'indiquer. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. J'étais étonnée qu'il me demande vraiment, voilà, de gommer le moindre effet, en fait, finalement. Et ça m'a rappelé un peu, je ne sais pas pourquoi, ça m'a rappelé ce qu'il advenait dans les films que j'ai fait avec Godard. Une sorte de degré zéro du jeu, c'est un petit peu ce qui se passe dans le film d'Aïra Sachs. On a l'impression que personne ne joue. De sorte que quand le film a été terminé, j'avais vraiment l'impression d'avoir rien fait. Je me suis dit, mais on va pas me voir dans le film, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une non-performance au sens non... enfin, pas performance au sens performatif du mot, mais une non... Enfin, pas de jeu, pas de rôle, j'avais l'impression d'avoir rien joué. C'est curieux.
Et puis, il y a Greta. Alors là, on vous découvre dans un rôle de composition. Je ris parce que c'est un film de genre, comme on dit, où vous interprétez le rôle d'une femme complètement folle qui attire par un moyen très particulier. L'action se passe à New York, même si le film n'a pas été tourné à New York, qui laisse dans le métro new-yorkais des jolis sacs pour que des jeunes femmes viennent rapporter à cette personne que vous interprétez magistralement. Et ensuite, comme elle sait jouer du piano, il se passe beaucoup de choses.
Oui, il se passe beaucoup de choses. Vous avez bien fait d'en parler comme un film de genre. C'est une vraie folle et c'est une vraie psychopathe. Enfin, c'est une tueuse en série. Alors, c'est un film de Neil Jordan et qui est... pour employer un mot un petit peu galvaudé, mais enfin, pour le coup, qui a lieu d'être, qui est un peu décalé, oui, c'est-à-dire que c'est un film un peu intemporel aussi. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un peu comme une fable aussi. J'avais l'impression d'être un peu dans les contes de Grimm avec la sorcière. Il y a tous les prototypes de la gentille, la jeune fille très, très douce, et puis la méchante. Voilà, moi, je joue la méchante, la très méchante.
La très méchante qui jouit de faire du mal. Et manifestement, ça vous contente.
Qui jouit de faire du mal, mais en même temps, il y a aussi quelque chose... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est touchant, parce qu'il n'y a rien de touchant dans le film. En même temps, il y a des choses très drôles. La fonction qui est assignée à la musique, au piano, qui généralement, quand quelqu'un joue du piano, écoute de la musique, alors tout d'un coup, ça convoque un peu d'émotion, on se dit, ah ben quand même, elle a une partie d'elle. Et puis quand on voit ce que le piano finalement cache, là, on trouve que le piano est nettement moins délicat. Et puis cette pièce dans laquelle elle enferme ses victimes raconte énormément de choses sur ce personnage, sur son attachement maladif au passé, à l'enfance, sur quelque chose comme ça qui s'est arrêté en route aussi, comme quelqu'un qui n'aurait pas grandi elle-même et qui reste enfermée dans un univers de poupées, d'ours en pluche. C'est très, très particulier.
Vous ne craignez pas qu'on ait peur de vous après ce film ?
Non, je... non, 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 je ne crois pas. Non, non, pas plus que d'habitude en tous les cas.
Dès qu'un film est terminé, hop, c'est l'avenir qui vous happe.
Le présent, plutôt que l'avenir.
Merci, on va vous laisser. Hein. Vous entrez en scène dans combien de temps, là ? On la répète.
Je vais rentrer en scène, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais rentrer en scène dans 2 heures.
Bon.
Mais je ne la quitte jamais, la scène. J'y suis 24 heures sur 24 en ce moment.
Même la nuit.
Même la nuit. Peut-être surtout la nuit même. Et quand je regarde un spectacle de Bob Wilson, j'ai l'impression d'assister à un rêve éveillé. Je trouve que peu de metteurs en scène ne nous font à ce point entrer comme ça dans la dimension de rêve. Mais du rêve pas au sens je rêve à autre chose, de non-veille. C'est à ça qui nous fait accéder Bob Wilson.
Merci beaucoup.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, ôter le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer.
Et c'est avec la chanson de Dominique A intitulée La Poésie que nous allons nous quitter. Non sans avoir rappelé que le spectacle de Bob Wilson intitulé Marie Said What She Said et interprété par Isabelle Huppert commencera la semaine prochaine, le 22 mai à Paris, au théâtre Cardin, jusqu'au 6 juillet. Et non sans dire bonne chance au film qu'interprète Isabelle Huppert, le film de Ira Sachs, Frankie, en compétition officielle. Merci à Arthur Gerbeau qui a réalisé la prise de son de l'émission de ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.